Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
This is the exit from Brexit. England wants to move out. Do you understand this? Do you understand this? Why would they move out? Can you understand this? Can you understand this? Why they live their European house?
Bonjour à tous. À 9 mois de l'échéance du Brexit, c'est donc la crise la plus totale au sein du gouvernement britannique. 2 démissions coup sur coup du ministre du Brexit et des Affaires étrangères. Le bouillonnant et fantasque Boris Johnson a dénoncé un semi-Brexit qui ferait du Royaume-Uni une colonie de l'UE. Autant dire qu'au sein du Parti conservateur, les couteaux sont bien aiguisés entre les partisans d'un Brexit hard ou soft. Le spectre d'une sortie sauvage de l'Europe sans accord fait donc à nouveau son apparition. Les débats se nourrissent d'un vocabulaire très imagé que décrypte pour nous notre correspondante Marie Billon, un lexique qui commence forcément sur la thématique du dur et du mou. Comme le caramel.
Savez-vous ce qu'est le fudge ? C'est une friandise typiquement britannique du caramel mou qui ne ressemble à rien, ou plutôt qui peut prendre la forme que le pâtissier veut lui donner. Et justement, voilà, le Brexit, c'est du fudge. Un monceau de sucre qui en fait saliver certains et qui en dégoûte d'autres. Et ce mot représente tellement bien le Brexit qu'il est un nom et un verbe. Quand Theresa May, par exemple, fait un faux pas, elle fudge. Quand le gouvernement ne parvient pas à éviter les fuites et qu'on apprend que Boris Johnson a traité la vision du Brexit de la première ministre de crotte qu'il faut polir pour la rendre présentable, là encore, eh bien, ça fudge. Et le Brexit est si savoureux que le champ lexical de la nourriture est très utilisé. Les eurosceptiques doivent avoir un taux de sucre très inquiétant dans le sang à force de vouloir their cake and eat it. En français, alors ça se transforme en cholestérol avec vouloir le beurre et l'argent du beurre, à savoir quitter l'UE mais en garder les privilèges. Ce qui a fait dire à Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit, qu'il n'y aura pas de gâteau pour les eurosceptiques mais seulement du sel et du vinaigre. Alors une référence biblique vieille de 2000 ans pour faire face à un petit nouveau, Brino ou bien Bino, un acronyme inventé de toutes pièces qui signifie Brexit in name only, un Brexit qui n'en a que le nom. Ce qui a aussi donné naissance au Brexit Hotel California, comme dans l'établissement cauchemardesque de la chanson des Eagles, les eurosceptiques ont peur que les Britanniques aient rendu les clés de la chambre ou bien de l'UE dans cette métaphore, mais n'aient jamais le droit de partir. Et tout ça pourquoi ? Eh bien à cause du fudge premier de Theresa May, qui avait annoncé en juillet 2016, quand elle est devenue première ministre, que Brexit signifie Brexit, sauf que Brexit est lui aussi un mot nouveau et les académiciens, comme les politiciens, ne sont pas encore parvenus à le définir avec exactitude.
Mise en service des moteurs électriques, c'est déconcertant, on n'entend rien une fois que c'est démarré. C'est parti pour un tour du monde pendant 6 ans.
Il fait le tour du monde et cette année le tour de la Méditerranée. L'Energy Observer poursuit son odyssée du futur. Il s'agit d'un catamaran, mais surtout d'un laboratoire sur l'eau qui explore les carburants de demain. Il ne fonctionne qu'avec des énergies renouvelables. Une prouesse technologique qui a aussi pour but de promouvoir toutes les initiatives terrestres. Lors de son escale en Grèce, Charlotte Stivenard est allée rencontrer l'équipage.
Sur le quai de la marina de Flisbos à Athènes, les badauds observent avec curiosité l'étrange équipage qui apparaît au loin. Un catamaran blanc aux allures futuristes recouvert de panneaux solaires. L'accostage se fait tout en délicatesse. À la barre, un ancien coureur au large et officier de marine marchande.
Bonjour, je suis Victorien Hérussard, fondateur et capitaine d'Energy Observer. Energy Observer, c'est un navire de 30 mètres de long, 13 mètres de large. C'est un navire à propulsion électrique qui fonctionne grâce à un mix d'énergie renouvelable et à l'hydrogène. Donc on est en quelque sorte un bateau laboratoire, un démonstrateur qui préfigure les réseaux énergétiques de demain. C'est-à-dire on associe les renouvelables. Donc là, en l'occurrence, sur le bateau, on a en production d'énergie de l'éolien, du solaire et de l'hydrolien.
Cet ancien bateau de course a été reconditionné pour être autonome. Une aile de traction intelligente lui permet d'avancer avec le vent en réduisant ses besoins en énergie. Des panneaux solaires et deux éoliennes produisent de l'électricité. Tout est stocké dans des batteries et le surplus est utilisé pour faire de l'électrolyse, un processus qui permet de transformer l'eau de mer en hydrogène, utilisé lui aussi pour faire avancer le bateau.
Et l'hydrogène, c'est l'élément le plus présent dans l'univers. 75% de la masse de l'univers, c'est de l'hydrogène. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas l'état naturel. Donc, il faut de l'énergie pour produire de l'hydrogène. Le système fait que dès qu'on est en excédent d'énergie sur nos batteries, on prend le relais sur la production d'hydrogène et on emmagasine notre énergie. Vous voyez, là, on est à Athènes pendant quelques jours. Nos batteries, elles seront pleines dans 3-4 heures avec l'énergie solaire, éolienne, etc. Et donc, l'excédent, on le valorise avec l'hydrogène.
On va voir du côté des réserves d'hydrogène.
Oui, tout à fait.
Malgré toutes ces machines, ce qui impressionne sur le bateau, c'est le silence.
On a fait un test avec des scientifiques dans les îles grecques, avec l'ONG Archipelagos. On a analysé le bruit que l'on fait sous l'eau. On est en dessous comme fréquence des 1 kHz. Et il faut savoir que les mammifères marins sont gênés à partir de 4 kHz. Donc n'importe quel autre bateau qui fonctionne avec une propulsion thermique est au-dessus du seuil des 4 kHz. Donc voilà, donc ce bateau, souvent j'utilisais uniquement le terme de gaz à effet de serre et de particules fines. Là maintenant, on a une troisième source de pollution au moins.
La visite continue.
Alors là, vous avez le cockpit ici. Le cockpit, c'est la partie certainement la plus agréable du navire. Vous avez vu, c'est frais, c'est ventilé. On a même une véranda solaire derrière. On produit notre énergie, ça nous couvre un petit peu du soleil. Là, vous avez le poste de bar qui, comme vous le voyez, est entièrement digitalisé. Digitalisé à l'intérieur du carré, tout est épuré. On voulait symboliser un petit peu le futur. Hein. Ça fait un peu navette spatiale. Et voilà, la cuisine entièrement électrique. Et voilà, c'est la zone de vie. On a 7 cabines en tout. On navigue environ à 6-8 personnes.
À l'intérieur, le rangement a commencé avant une conférence de presse. Parmi les habitants du bateau, des officiers de marine marchande, des ingénieurs, mais aussi une équipe de tournage. Elle réalise l'Odyssée pour le futur. Jérôme Delafosse, le cofondateur, est en charge de cette partie du projet. Dans la cinquantaine de pays au programme du périple, son équipe part à la recherche de projets innovants. Comme il n'est pas à bord, Amélie Conti, reporter embarquée, raconte ce qu'ils ont filmé en Grèce.
Donc, puisque ça fait déjà 3 semaines en fait, qu'on est en Grèce, hein, on a fait plusieurs îles déjà. On a fait Rhodes, Samos, Tylos, Lipsi et la Crète. Donc on a déjà rencontré plein de différentes innovations et plein d'acteurs du changement pour le documentaire et pour notre web-série également. Donc par exemple, on a vu là dernièrement l'association Archipelagos qui est une association de recherche marine qui fait notamment des recherches sur le microplastique et sur le bruit anthropogénique qui est donc le bruit que l'homme fait en utilisant des cargos, des paquebots, des sonars, etc. et qui perturbe la vie des mammifères marins. On a fait l'île de Tylos, qui est la ville 100% verte de l'archipel grec.
Allez dans le cockpit. Welcome on board.
Thank you.
À la conférence de presse, quelques sponsors sont là, comme la filiale locale de Engie, anciennement Gaz de France Suez. Victorien Hérussard les fait rire en racontant que sa femme en avait assez qu'il soit toujours loin de la famille, juste pour apporter des trophées. Il voyage encore donc, mais maintenant, cela a un sens, dit-il.
Quand vous êtes régatier, vous êtes près des éléments, très près des éléments. J'ai traversé une dizaine de fois l'Atlantique, sensibilisé à l'environnement, l'écologie, en voyant ces catastrophes au large, hein, tout le plastique qu'on rencontre. Et voilà, j'ai voulu tout simplement créer un projet qui ait du sens. Voilà.
Depuis, le catamaran blanc a repris sa route vers l'Albanie. L'an prochain, il sera en Europe du Nord et en 2020, il prendra la direction des Amériques.
Et en matière d'environnement, Malte cherche à régler ses problèmes de pénurie d'eau. Le plus petit pays de l'Union européenne est aussi le plus dense en termes de population. Aujourd'hui, 40% des ressources en eau pour les particuliers et les agriculteurs proviennent des nappes phréatiques et 60% des usines de désalinisation. Mais ce n'est plus assez, les ressources s'épuisent et l'eau de la mer commence à s'infiltrer naturellement dans les nappes. Seule solution, nettoyer, filtrer les eaux usées pour les transformé en eau d'irrigation des champs. C'est le reportage de Laurent Berthaud.
En bord de mer, à quelques dizaines de mètres d'une crique bleue turquoise, la station d'épuration de Tchoumnia offre un paysage beaucoup moins idyllique. Des eaux marrons bouillonnent dans de grands bassins et l'odeur d'égout qui s'en échappe ne laisse aucun doute sur leur provenance, les eaux usées des particuliers et des hôtels très nombreux dans cette partie nord de l'île. Brassée, nettoyée par des micro-organismes, décantée, filtrée, l'eau usée retrouve peu à peu sa clarté originelle, suffisamment pour être rejetée dans la mer. Mais depuis septembre 2017, une nouvelle unité en rend une partie propre à l'irrigation. C'est le programme New Water. Ryan Faltson, ingénieur, est responsable des trois stations d'épuration de l'île.
New Water, c'est le nom commercial. On dit que c'est la nouvelle eau parce qu'en général, sur les îles maltaises, l'eau provient de la désalinisation de l'eau de mer. Cette ressource que jusqu'alors on rejetait est désormais traitée selon des standards d'épuration très élevés et on peut la redonner aux gens.
Sous le nouveau hangar, de longs cylindres blancs, de hautes cuves et un bruit assourdissant.
C'est le top de ce qu'on peut avoir en matière de traitement des eaux usées. On a recours à des procédés physiques et biologiques classiques et l'étape suivante consiste à purifier l'eau encore plus grâce à la technologie de filtration sur membrane.
Pour éviter tout risque de maladie, l'eau subit un ultime traitement.
Nous passons l'eau aux rayons ultraviolets et à l'eau oxygénée pour détruire toute trace de virus ou de polluants biologiques.
5000 mètres cubes d'eau destinée à l'irrigation sortent chaque jour de la station d'épuration.
Voilà les pompes qui envoient l'eau vers un grand réservoir situé à 140 mètres d'altitude. C'est de là que l'eau partira vers les champs des fermiers.
Un réservoir qui alimente 12 points de distribution dans le nord de l'île, auxquels sont raccordés 170 agriculteurs. David a de la chance. Son champ de 4000 mètres carrés est situé tout près d'un de ces points. Après s'être identifié avec une carte magnétique, il peut utiliser l'eau recyclée pour ses cultures.
Je veux pousser des pastèques, des poivrons verts, des fraises, de janvier à juin, des courges, du persil, du céleri.
David a dû construire lui-même le long réseau de tuyaux qui part du point de distribution pour irriguer ses champs. Il peut prétendre à des aides de la PAC pour cela.
C'est bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas encore assez de points de raccordement. Pour moi, ça va ici, je ne suis pas loin, mais j'ai d'autres parcelles sur l'île. Il y a des projets, mais je pense que ce ne sera pas avant des années.
Pourtant, il y a urgence, surexploitée depuis 40 ans, et pas seulement par l'agriculture. La nappe phréatique de cette île est gravement altérée par les nitrates des cultures et de l'élevage, mais surtout, petit à petit, par l'eau de mer qui a pris la place de l'eau douce dans les puits.
Le problème, c'est qu'elle est trop salée désormais. Alors moi, je suis pour le programme New Water à 100%, mais on a toujours besoin d'utiliser l'eau des puits, parce que je n'ai droit qu'à une heure de nouvelle eau par jour.
Dans une autre localité de l'île, nous rencontrons un agriculteur qui bénéficie lui aussi de ce programme, mais qui tient absolument à rester anonyme. Nous comprenons rapidement pourquoi.
Je vends mes produits au marché et le jour où le journal a parlé de ce programme, des clients sont venus et m'ont demandé « Tu utilises l'eau de la station d'épuration ?» Parce que si c'est le cas, on ne va plus t'acheter tes légumes, alors que cette eau est bien meilleure que celle des puits, mais bon.
Jusqu'alors, pour irriguer ses cultures, cet agriculteur devait dessaler l'eau de son puits, une méthode longue et coûteuse. Depuis qu'il utilise l'eau recyclée et presque plus l'eau de son puits, il a constaté que ses récoltes étaient plus abondantes et les plantes en meilleure santé.
Nous avons réduit les quantités de pesticides et de fongicides. Cette année, on n'a même pas utilisé de fongicides du tout. Habituellement, les racines ont des champignons et à certaines périodes de l'année, les plantes dépérissent. C'est dû à la combinaison du sel et des bactéries. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cette nouvelle eau est très propre et donc les champignons n'attaquent plus les racines. Utiliser cette eau, c'est plus sain pour les produits et pour les clients.
Cet agriculteur estime que le gouvernement devrait rendre public les analyses de cette eau recyclée pour gagner la confiance des consommateurs. De son côté, l'hydrologue activiste Marco Cremona, qui milite depuis une vingtaine d'années pour la réutilisation des eaux usées, estime que ce programme n'est pas assez exigeant.
J'ai une confiance totale dans la qualité de l'eau qui est produite. Ce qui me pose problème, c'est que l'objectif premier de ce programme devrait être de réhabiliter l'eau des nappes phréatiques, ce qui n'est pas le cas. Il aurait fallu demander aux agriculteurs qui utilisent gratuitement cette eau de recyclage de fermer leurs puits. Mais aucune condition n'a été posée. Et comme cette nouvelle eau est sujette à quota pour l'instant, les agriculteurs continuent à pomper l'eau de leurs puits. Certains combinent même les deux pour augmenter leur récolte. En tant qu'expert, j'attends de ce programme qu'il profite au pays en permettant vraiment de sauvegarder les nappes phréatiques.
Une demande qui pourrait se concrétiser rapidement. Début juillet, une seconde station produisant de l'eau d'irrigation entrait en service sur l'île maltaise de Gozo. Une troisième unité ouvrira très prochainement dans le pays. Le quart des agriculteurs maltais devrait bénéficier de ce programme d'un coût total de 50 millions d'euros, cofinancé par l'État maltais et l'Union européenne.
Un reportage à retrouver en images et en son dans un diaporama sur la page Facebook d'Accent d'Europe.
L'albicocca è il primo frutto, la prima confettura che il bambino utilizza. Marmellata al caffè Sicilia l'abbiamo sempre preparato nei 125 anni della nostra storia.
Sucré, salé, c'est cette combinaison qu'explore le chef pâtissier Corrado Asensa. Le Sicilien est devenu une célébrité sur son île natale depuis que le géant américain Netflix l'a choisi pour un de ses épisodes de Chef's Table, une série dédiée aux meilleurs chefs cuisiniers du monde. Portrait ancré dans la ville de Noto, signé Cécile de Barge.
À travers le portrait de Corrado Asensa, c'est d'abord la Sicile qui se dévoile. Les collines jaunies par le soleil du Val de Noto, les terres volcaniques de l'Etna où poussent pistaches et fruits rouges, les champs de citronniers à perte de vue, cette pointe du sud-est de la Sicile que l'on appelle aussi le triangle baroque et qui est le berceau des recettes de Corrado Asensa, toutes élaborées avec les produits des agriculteurs locaux. Glace artisanale, granita, le fameux sorbet italien qui ressemble à de la glace pilée, cassata à la mousse de pistache et bien sûr le roi des desserts siciliens, le cannolo fourré à la ricotta fraîche. Dans la série de Netflix, on part pendant près d'une heure à la rencontre du chef pâtissier du Café Sicilia, mais aussi des fermiers et des producteurs siciliens qui lui fournissent sa matière première. Une déclaration d'amour à sa région et à ses spécialités sucrées connues dans toute l'Italie et que Corrado Asensa n'a eu de cesse de réinventer.
Il n'y a pas de frontière entre le sucré et le salé. C'est la nature qui nous le dit et c'est d'elle que j'ai appris ça. Chaque produit qui vient de la nature, avant même d'être un aliment, quand c'est encore un produit agricole, quand c'est une matière première, contient à la fois du sucre et du sel à l'intérieur.
De ce constat sont nés des desserts inattendus comme une tarte sucrée aux tomates ou une crème d'amandes brûlées, mais surtout des saveurs toujours plus variées pour ces granitas. Pourtant, rien ne prédestinait Corrado Asensa à devenir l'un des héritiers de la tradition culinaire sicilienne. Né en 1960 à Noto, dans le sud-est de la Sicile, il quitte son île natale pour étudier l'agronomie à Bologne, dans le centre de l'Italie. C'est là qu'il rencontre sa femme et s'installe avec elle. C'est un appel de sa tante qui le fera changer d'avis. « Je vais fermer le café Sicilia », lui dit-elle. « Voudrais-tu le reprendre ?» La décision fut difficile. Corrado Asensa a tout appris sur le tas en regardant travailler le maître pâtissier qui officiait encore dans le café familial. Aujourd'hui, son fils Francesco travaille en cuisine à ses côtés et promet encore de longues années de glace, de granita et de douceur aux habitués du café Sicilia.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot avec le soutien de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et sur les réseaux sociaux. À demain.